Le festival Cré Jazz Vocal, c'est non seulement des concerts tous les soirs, mais aussi des stages de jazz vocal et gospel pendant la semaine, qui va du niveau débutant à la masterclass. C'est aussi des conférences animées par Nicolas Béniès, historien du jazz à l'Université populaire de Caen, créateur et animateur d'émissions de radio sur le jazz. Cette année, la thématique « Les femmes du jazz », en partenariat avec la médiathèque départementale. On écoute Nicolas Béniès qui nous raconte sa passion pour le jazz.
La passion du jazz, elle remonte assez loin, mais c'est un problème presque de génération. Ma génération, donc qui est très vieille aujourd'hui, bien sûr, ma génération a été quasiment éduquée dans le jazz. À partir des années 1950, sur Paris Inter, on n'entend quasiment que du jazz. Parce que d'abord, Sidney Bechet est la grande vedette populaire, donc par l'intermédiaire de Sidney Bechet, on découvre une grande partie du jazz. Et puis parce que les pubs, par exemple, c'est Jacques Ellian qui est le grand orchestre de l'époque. Et parce que le jazz est quasiment présent presque chaque jour. Il y a des émissions du jazz. Sim Coppens qui va débarquer à partir du 6 juin 1944, crée les émissions du jazz sur Paris Inter. Voilà, c'est une éducation. D'ailleurs, on écoutait du jazz comme M. Jourdain faisait de la prose, hein, c'est pareil, on n'a pas vraiment de mérite. Et puis après, on prend conscience, parce que c'est plus compliqué. Après, on prend conscience de ce qu'est cette musique. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est plutôt le free jazz qui rentre en ligne de compte, parce que le choc esthétique... C'est plutôt Coltrane et puis ensuite la Fondation Mahle, Albert Ehler, Cecil Taylor, enfin voilà, c'est Sun Ra, l'orchestre de Sun Ra est magnifique. En 72, à la fête de Lima, il fait un concert qui laisse tout le monde par terre, alors que c'est considéré comme de la musique difficile à écouter, mais il y a tout un apparat, tout un ensemble qui fait que d'un seul coup, cette musique-là devient la musique d'une génération.
Alors vous êtes vous-même musicien peut-être ?
Non, je ne suis pas musicien, je ne le regrette pas vraiment. Je peux vous montrer comment faire un shadaba à la batterie, si vous voulez. Je peux vous montrer comment on fait une succession d'accords ou du modal sur un piano. Mais non, ça, d'abord parce que je suis aussi économiste et que ça me prend du temps et que j'aime bien faire de l'économie en plus. C'est aussi à la fois un métier et une passion. Voilà, le temps n'est pas forcément extensible. Je ne suis pas monomaniaque de l'instrument. Et je pense que pour jouer d'un instrument, il faut être monomaniaque. Il faut tomber amoureux du piano. Moi, j'aime beaucoup le piano, ce n'est pas la question. Mais il faudrait y passer du temps que je n'ai plus.
Cadre du festival Jazz Cré Vocal. Alors la thématique c'était les femmes oubliées du jazz. Alors pourquoi ce choix ?
C'est la troisième année. J'ai choisi de faire un thème autour des femmes du jazz parce qu'en fait on oublie très souvent les femmes. D'abord parce qu'on considère que le jazz est une musique de macho, d'homme, de mâle dominateur, de coq. C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu beaucoup de femmes dans les mondes du jazz. Il faut leur donner leur place. Et je crois réellement que si on veut renouer les fils de la mémoire, du patrimoine, même de l'héritage, il faut pas oublier cette partie qui est une partie très importante. La moitié du monde, quasiment, un homme sur deux est une femme, comme chacun sait. Et donc, du coup, je pense que cet ostracisme qui est réel, qui est pas seulement d'ailleurs dans les mondes du jazz, on oublie toutes les autres femmes qui, à un moment donné, ont eu une influence dans les mondes de la culture, si on prend que ça, mais c'est valable pour d'autres mondes. Et je crois que c'est une erreur totale. C'est comme si, parce qu'il y avait une face cachée de la Lune, on oubliait que la Lune est un ensemble, quoi, qu'il y a une face cachée, une face visible. Donc je crois que tout ça fait partie d'une nécessité, une nécessité de mémoire. Je crois que quand on oublie une partie de sa mémoire, on s'oublie un peu soi-même. S'il n'y avait pas eu, dans les années 1920, Bessie Smith, qui enregistre et qui est considérée comme la première chanteuse de blues, mais qui est une chanteuse de jazz, en fait, il n'y aurait pas eu Sidney Bechet, il n'y aurait pas eu Louis Armstrong. C'est-à-dire qu'en fait, il y a presque une mère nourricière de l'ensemble du jazz. Donc il faut tenir compte de tout ça.
Yeah, big liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get...
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Déclic 106.3. Vous venez d'écouter un extrait de Bessie Smith avec le titre Nobody Knows You When You're Down and Out. On retrouve notre invité, Nicolas Beignès. Comment vous expliquez le fait que le jazz, en tout cas les débuts du jazz, une musique très très populaire, une musique au départ non écrite d'ailleurs, hein, beaucoup de musiciens ne savaient pas écrire, n'avaient pas l'écriture musicale, et qu'aujourd'hui, en tout cas en France, elle est devenue une musique assez pour les puristes, je dirais.
Je crois que le jazz souffre d'images. Alors, on a eu plusieurs images du jazz. C'est vrai que dans cette période-là, qui est la période des années 20-30, que Scott Fitzgerald va appeler l'âge du jazz, on a une musique qui est une musique qui est à la fois populaire et savante. C'est-à-dire, il y a aussi les minstrels, il y a aussi les comédies musicales, il y a aussi un jazz que Darius Milhaud appelait le jazz de variété. Hein. Il y a pas, c'est pas tout, tout n'est pas totalement pur, comme on dit d'habitude. Dans les années 30, ça va changer, le jazz va devenir réellement... C'est le moment précis où le jazz devient, aux États-Unis, en France, musique populaire. Il ne faut pas oublier que la France va vivre à l'unisson du jazz. Hein. Il y a le débarquement du jazz qui a lieu le 31 décembre 1917 à Saint-Nazaire, le 1er janvier 1918 à Brest, et que l'orchestre conduit par Jimmy Rappers va avoir une très très grande influence. Cocteau va être un des grands diffuseurs du jazz. Il va donner une définition du jazz que je vous livre, que je trouve superbe. Il va dire qu'il s'agit de la catastrophe apprivoisée. Celle-là est superbe. Donc voilà, c'est une période assez spécifique quand même de la vie du jazz. Et puis le jazz va devenir, c'est vrai, après la Seconde Guerre mondiale, considéré comme une musique de sauvages, de jeunes, révoltés, de zazou, ça c'est pendant la guerre. Et assez curieusement, peut-être paradoxalement, je ne sais pas, à partir des années 90, il va y avoir une image nouvelle qui va être collée au jazz. Musique d'intello, on va dire, voilà, c'est une musique de vieux, de vieille, c'est pas une musique de jeunes, alors qu'elle a toujours été musique de jeunes. En 1920, c'est une musique de jeunes, en 1930, c'est pareil, en 40, 50, 60, 70, c'est une musique de jeunes, c'est une musique qui répond à tout ce qui se passe sur le terrain social, à mai 68. Voilà, et d'un seul coup, on se retrouve avec une image qui est une image désastreuse, parce que dans les cours d'école, quand on s'insulte, l'insulte suprême, c'est un télo. Et donc, cette musique d'un télo, on va considérer que ce n'est pas la musique de la jeunesse. Et la jeunesse ne va pas se reconnaître, non pas parce qu'il l'écoute et il la refuse, mais parce qu'il ne l'écoute pas, ce qui est beaucoup plus compliqué, et beaucoup plus compliqué d'ailleurs à combattre. Et il y a un paradoxe aujourd'hui, si vous regardez même la scène de Cray Jazz Vocal, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes musiciennes, musiciens sont présents sur la scène et le public reste vieux. Enfin, vieux, toute proportion gardée, c'est quand même pas mal de cheveux blancs, il faut quand même le dire, pas de cheveux du tout d'ailleurs. Mais bon, c'est ça, je pense, c'est un vrai paradoxe de la situation actuelle. C'est-à-dire que le jazz peut plaire et être la musique d'une partie des musiciens et des musiciennes qui sont jeunes aujourd'hui. Thomas Senko, hier soir, il n'a même pas 30 ans, ses camarades du trio tout autant. Donc voilà, ça montre qu'il y a une vie, une vraie vie, une vraie présence du jazz. Et le jazz n'arrive pas à convaincre d'une certaine façon. Et il y a toutes les images qu'on balade autour de cette musique d'intello. Je pense qu'il faudrait vaincre. En fait, il faudrait, et ça c'est un travail de radio, hein. il faudrait que dans les émissions de radio, on explique ce qu'est cette musique, pourquoi cette dimension, qui est la dimension du jazz de révolte, est absolument essentielle, et pourquoi si la jeunesse s'emparait du jazz, on pourrait justement renouer avec des révolutions esthétiques importantes.
Vous parliez tout à l'heure dans la conférence d'un double langage au niveau des paroles, mais au-delà aussi avec l'ambiance et la problématique, notamment aux États-Unis, qu'il y avait, c'était aussi la ségrégation.
Oui, c'est le blues, particulièrement les paroles du blues, comme les paroles du jazz, très souvent. Alors, les doubles entendres, c'est aussi des doubles entendres sociaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a toute une thématique autour de la définition des mots. Les mots n'ont pas le même sens, hein, suivant de qui les prononce. Ce qu'a dit, par exemple, Michael Jackson, le thème s'appelle « bad ».« Bad », ça veut dire « mauvais ». Là, en l'occurrence, ça veut dire « super ». C'est au contraire, c'est l'inverse. Donc, on lui donne une signification qui est une signification positive. Et on va faire très souvent ça dans le monde du jazz. C'est-à-dire, on va, du blues tout autant, on va très souvent donner aux termes qui sont les termes grossiers de l'anglais, on va leur donner un sens positif. Et on va renouveler ce sens positif, parce que c'est très important de comprendre que le double entendre fait partie de générations. C'est une génération qui se reconnaît dans un certain nombre de termes, dans un certain nombre de manières de dire et donc de manières d'être. Et c'est ça aussi qui fait le propre de la musique. C'est ça peut-être qu'on a perdu. On a perdu un peu ce qui est le patrimoine dans les inner cities, les centres-villes, parce que nous, on a une crise des banlieues, mais ils ont une crise des centres-villes, c'est la différence. Dans les centres-villes, le blues n'existe plus. La jeune génération aujourd'hui des Africains-Américains ne veulent pas se reconnaître dans le blues, ils pensent que c'est une musique de l'esclavage. Donc il y a une espèce de rupture qui vraiment très profonde qui s'est mise en place. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes musiciens d'aujourd'hui, évidemment qui sont moins jeunes puisque tout le monde vieillit un peu, mais ont très souvent joué sur le rap pour pouvoir renouer les fils en fait et faire la démonstration que le jazz c'était quand même leur musique ou le blues aussi. Et très souvent dans les rappeurs, on trouve derrière les disques Blue Note, ces disques du milieu des années 50, début des années 60, qui pulsent évidemment, encore aujourd'hui, c'est super. Il faudrait aujourd'hui vraiment, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les femmes, parce qu'en fait, les femmes, c'est l'élément, un des éléments clés de la nécessité de renouer les fils de la mémoire.
Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune public pour les inciter à écouter peut-être plus de musique jazz ?
Simplement de venir dans un concert, pas forcément d'écouter les disques parce que c'est plus compliqué, parce que je donnais tout à l'heure l'exemple de Sun Ra, mais Sun Ra, quand on l'avait vu soit à la Fondation Mag, soit à la Fête de l'Humanité, ça permet d'ouvrir les oreilles. Alors, en fait, très souvent, on entend avec les yeux, ça peut paraître bizarre, mais... Donc, qui fait qu'ensuite on écoute différemment l'album enregistré. Et l'album enregistré en studio, c'est un peu difficile parce qu'en fait, le jazz suppose une partie seulement, de spontanéité, de relation avec le public. Donc, il faut d'abord aller au concert et essayer d'aller voir. Et lutter contre cette idée qui est que les concerts de jazz sont chers. Les concerts de rock sont plus chers que les concerts de jazz. Hein. Donc, je pense qu'on a un travail à faire en termes de journalisme, d'hommes et de femmes de radio, sur justement cette connaissance. Et moi, par exemple, je fais beaucoup de conférences, dans certaines, il y a quand même des jeunes, heureusement, il n'y a pas que des vieux. Et par exemple, je fais écouter Louis Armstrong en juin 1928, l'introduction de West End Blues, qui dure exactement 11 secondes, hein, pas minutes, 11 secondes, et il tombe sur le cul parce que c'est super, parce que tous ceux et toutes celles qui peuvent écouter ça, on reconnaît le génie, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut faire aussi.